Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Sans doute n'aviez-vous jamais entendu parler de la résolution L41 de l'ONU. Son adoption est pourtant récente, mais il est vrai qu'elle a été votée la veille du réveillon de Noël, moment peu propice pour retenir l'attention médiatique. Il se pourrait néanmoins qu'elle finisse par atteindre une certaine notoriété, voire postérité, en inaugurant une nouvelle phase du désarmement nucléaire mondial. Alors que préconise la résolution L41 ? L'organisation d'une conférence des Nations Unies chargée, je cite, de négocier un instrument juridiquement contraignant d'interdiction des armes nucléaires conduisant à leur élimination totale. Et il se trouve, vous venez de l'entendre, que cette conférence s'ouvre aujourd'hui à New York. Alors c'est déjà un succès puisque plus d'une centaine de pays participent à ces négociations inédites, mais c'est aussi déjà un échec dans la mesure où ce sont les absents qui y sont le plus visibles. États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni notamment, autrement dit les puissances nucléaires, sans qui rien ne peut se faire en matière de désarmement. Pour les participants à cette conférence, l'idée est justement de faire pression sur ces grandes puissances, de les obliger à respecter leurs engagements pris dans le cadre du traité sur la non-prolifération. Il y a urgence, disent-ils, eu égard aux nouveaux déséquilibres mondiaux, ce que contestent les partisans de la dissuasion. Alors, désarmement nucléaire, ça urge ? Eh bien, c'est la question, car c'en est une. Nous allons poser ce soir à trois invités. François Géré, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, président de l'Institut français d'analyse stratégique. J'ai vu dans votre bio sur votre site que vous êtes passé par une formation en physique des armes nucléaires. Et vous venez de publier aux éditions Economica la pensée stratégique française contemporaine. Pour discuter avec vous, Corentin Brousselin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, responsable du Centre des études et de sécurité de l'IFRI, et également du programme dissuasion et prolifération. Et puis notre troisième invité est au téléphone, il se trouve à New York. Il s'agit de Jean-Marie Collin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président d'IDN, IDN pour Initiative pour les désarmements nucléaires, qui est une organisation présidée par l'ancien ministre de la Défense Paul Quillès, chercheur associé auprès du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Si vous êtes à New York, c'est bien entendu par rapport aux négociations qui s'ouvrent aujourd'hui, négociations qui sont ouvertes aux ONG. C'est bien ça, Jean-Marie Collin ?
Oui, bien sûr qu'elles sont ouvertes aux ONG, puisque c'est un mouvement qui a été mis en place. Cette négociation a été travaillée depuis une petite dizaine d'années, notamment par la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, avec lequel plus d'une centaine d'États ont décidé de travailler sur ce qu'on a appelé les conséquences humanitaires des armes nucléaires, c'est-à-dire faire prendre conscience au reste du monde que posséder des armes nucléaires est dangereux, c'est un problème de sécurité mondiale et globale, et c'est aussi pour ça que justement il y a des instruments comme le traité de non-prolifération nucléaire, et qu'il faut renforcer ce TNP, par justement un traité qui va interdire ces armes nucléaires pour l'ensemble des États. Donc on est loin d'un échec, comme vous l'avez dit dans votre introduction, puisque d'une part, on a dans ces négociations, d'autre part, on a une large majorité d'États du monde qui sont donc présents ici pour travailler sur ce sujet-là. Et puis on a une petite quarantaine d'États, effectivement, qui décident de protester, ce qui est assez comique quand même pour une fois, puisque ce sont les États riches et puissants qui sont en dehors des négociations.
Alors vous aurez noté, Jean-Marie Collin, que j'ai dit que c'était à la fois et un échec et un succès, du fait de la forte participation des États, comme vous venez de le noter, et d'absences qui sont quand même des absences importantes. Mais on va reparler du contenu des négociations et de ce que pourrait donner ce traité, si jamais ces négociations aboutissent. Mais je voudrais d'abord vous interroger tous les trois sur le contexte dans lequel elles se déroulent, ces négociations. Est-ce qu'on peut dire que du fait des équilibres ou des déséquilibres mondiaux aujourd'hui, il y aurait une forme de retour du péril nucléaire, François Géré ?
Il y a certainement un retour des arsenaux nucléaires, à la fois en termes de réalisation et en termes de confrontation entre les États. Alors, côté réalisation, je crois que jusqu'à présent, on avait concentré l'attention sur le quantitatif. Aujourd'hui, il faudrait parler, je crois, de prolifération qualitative. Parce que on peut mettre des plafonds sur les quantités d'armes disponibles, stockées, fabriquées. Mais le problème aujourd'hui, c'est le problème de la modernisation. Et effectivement, des pays comme les États-Unis, la Russie, d'une certaine façon aussi la France et la Chine, consacrent une partie de leur budget à la modernisation de leurs armes, estimant qu'en termes de quantité, eh bien, c'est suffisant. Et par ailleurs, eh bien, on a un retour de la gesticulation nucléaire. On pense immédiatement à la Corée du Nord. Mais il y a une gesticulation russe depuis au moins le début du conflit en Ukraine. Et ce qui est très curieux, c'est que en France, on en parle extraordinairement peu, alors que si vous déplacez vers l'Est et le Nord de l'Europe, eh bien, vous avez des pays comme le Danemark, comme la Suède, comme les pays baltes, qui ont fait l'objet de déclarations franchement agressives de la part de la Russie. Et eux, ils prennent la chose très au sérieux et ils considèrent que affaiblir la dissuasion nucléaire serait les mettre en danger.
Et dans cette course aux déclarations agressives, on pourrait aussi sans doute ajouter Donald Trump, même si c'est d'une autre nature, mais en affirmant la volonté de rester la première puissance nucléaire mondiale. On voit aussi qu'il y a une sorte de... Alors quoi, je sais pas comment est-ce que vous qualifieriez-vous la situation, Corentin Brousselin, course, si ce n'est aux armements nucléaires, en tout cas course à la modernisation nucléaire aujourd'hui.
Il y a
et de la part
choses.
De l'ensemble des puissances.
En fait, il y a plusieurs processus qui se croisent. Déjà, il n'y a pas un retour simplement des périls nucléaires. Il y a un retour du risque de guerre, y compris du risque de guerre majeure. C'est-à-dire le retour du risque nucléaire ou du péril nucléaire, il s'inscrit dans une déstabilisation de l'environnement qui est plus globale, qui ne se réduit pas d'ailleurs au risque nucléaire. Je veux dire, on est bien placé en France pour le savoir avec notre confrontation qui n'est pas juste nationale, mais au terrorisme. Mais donc, il y a une dégradation de l'environnement avec un retour des politiques de puissance, pas juste en Europe, mais aussi en Europe. Et voilà ce que François Géré indiquait avec le retour d'une logique d'intimidation nucléaire. Et donc, le retour de ces rivalités de puissance repose la question du risque de guerre majeure. On le voit au niveau des grandes puissances, on le voit aussi au niveau des puissances régionales. La Corée du Nord, notamment, incarne parfaitement cela, qui pose un double risque de déstabilisation et de prolifération, puisqu'on sait que la Corée du Nord est particulièrement active sur ce champ-là. Et ça pose un risque d'instabilité stratégique, c'est-à-dire qu'on voit la Russie qui... a mis en œuvre en Crimée une agression, une annexion de territoire adossée à des menaces à peine voilées d'emploi de l'arme nucléaire aux alliés, adressées de manière générale au monde entier, rappelant le statut nucléaire de la Russie.
Mais est-ce que ça veut dire, Corentin Brousselin, qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire, qui était censée jouer un rôle stabilisateur dans le monde, n'est plus en mesure de jouer ce rôle parce que peut-être la doctrine sur l'utilisation possible des armes nucléaires serait en train d'évoluer?
Mais la dissuasion n'a pas vocation à empêcher tout type de comportement dans le monde et tout type de comportement de déstabilisation. La dissuasion nucléaire, elle est là pour protéger les intérêts vitaux des États qui la possèdent et de leurs alliés immédiats face à des agressions directes, face à des agressions massives. Donc elle a cette vocation qui est une vocation majeure, mais qui est une vocation qui reste limitée. C'est pas parce qu'on se fait attaquer par Daesh que la dissuasion ne marche plus, par exemple. Donc, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a le risque qu'on constate aujourd'hui, c'est celui de l'érosion de la stratégie qui adossait l'arme nucléaire, qui était jusqu'à présent il y avait une norme selon laquelle l'arme nucléaire, c'était une arme de dissuasion et seulement de dissuasion. Et ce qu'on voit, c'est que la frontière entre la dissuasion et la coercition nucléaire a été floutée, a été quelque peu franchie par la Russie et également par la Corée du Nord.
Jean-Marie Collin, est-ce que ce que viennent de dire François Géré et Corentin Brousselin, bah d'abord, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que ça justifie pour vous que l'on mène des négociations et si possible tambour battant pour aller vers cette dénucléarisation du monde?
Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce risque de guerre, de confrontation, d'accident nucléaire depuis l'existence de la bombe. Seulement, peut-être, une certaine partie du monde ou du monde occidental, en tout cas, l'avait oublié entre, je dirais, les années 95 et 2005. Si aujourd'hui on est véritablement dans cette montée en puissance des arsenaux nucléaires, c'est-à-dire que tous les États, les neuf qui possèdent l'arme nucléaire modernisent leurs arsenaux, donc pour avoir des armes qui vont plus vite, plus loin, plus précises, ça signifie bien qu'il y a un véritable risque d'utilisation. Et donc plus que jamais, face à ce problème de sécurité internationale et globale, il faut engager une action. Et cette action, la première étape, c'est d'interdire ce type d'armes de destruction massive. Aujourd'hui, ces armes ne sont pas légalement complètement interdites et il faut donc passer par cette étape-là pour après engager un programme de désarmement nucléaire. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, et c'est bien pour ça, normalement, que les États qui ont signé le TNP se sont engagés pour participer à des négociations de bonne foi.
Alors, puisque vous évoquez le TNP, il faut rappeler, le TNP, c'est traité de non-prolifération qui est entré en vigueur en 1970, qui avait été négocié les années auparavant. Et juste pour peut-être se souvenir, en tout cas pour certains, ce que pouvait être la nature des discussions qui étaient menées entre les puissances nucléaires et à l'époque entre les, enfin, ce sont toujours d'ailleurs les deux principales puissances nucléaires au monde, les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre. Écoutez cet extrait du journal de France Inter du 1er juillet 1968.
Les États-Unis sont prêts à engager avec l'Union soviétique des discussions sur la limitation et la réduction des armements nucléaires.
Monsieur Johnson répond ainsi favorablement à la proposition faite il y a quelques jours par Monsieur Gromyko devant le Soviet suprême. Le président américain s'est déclaré prêt à un engagement rapide des négociations. Monsieur Johnson présidait ce matin à Washington la signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires, tandis que la même cérémonie avait lieu à Londres et à Moscou en présence respectivement de messieurs Wilson et Kosygin. À cette occasion, le président du Conseil des ministres soviétiques a fait de nouvelles propositions concernant la limitation et la réduction des armes stratégiques. Ces propositions ont été adressées par voie diplomatique à tous les pays. Elles comportent 9 points principaux, parmi lesquels l'interdiction de l'utilisation des armes nucléaires, l'arrêt de leur fabrication, la destruction des stocks existants. Selon M. Kosygin, ce plan mondial devrait conduire à un désarmement général et complet.
Un désarmement général et complet, François Géré. Ça va faire 50 ans que le TNP est entré en vigueur. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça n'avance plus et que c'est peut-être aussi ce qui explique cette initiative et ces négociations internationales à l'ONU.
Il faut d'abord considérer que il y avait en 1968 cinq puissances nucléaires déclarées et que ces cinq puissances se sont accordés pour se donner un statut spécial, c'est-à-dire le droit de détenir des armes nucléaires, en s'engageant en contrepartie à aller vers la réduction de ces armements, puis éventuellement la disparition complète des stocks existants. Bon, ce qui n'a pas eu lieu, comme chacun sait, et même bien au contraire. Mais par la suite, un certain nombre de pays sont venus s'ajouter à cette liste. L'Inde, le Pakistan, et puis Israël, qui est un État doté d'armes nucléaires non déclarées, et qui n'a toujours pas l'intention d'ailleurs de faire de déclaration à ce sujet-là, ce qui pose immédiatement un problème. Quand vous êtes face à un pays qui est apparemment, sans qu'on puisse le vérifier, doté d'armes nucléaires, et qui dit « je n'en ai pas ». Bon. Et puis, bien entendu...
Il peut y avoir des inspections, hein, comme ça s'est fait dans notre pays.
Oui, mais ça, il faudrait naturellement que Israël accepte le principe d'inspection, ce qui est, semble-t-il, totalement contradictoire avec la politique militaire qu'il a menée jusqu'à présent. Bon. Vous avez, bien entendu, aujourd'hui, la Corée du Nord, et on a de très peu failli passer à 10 États nucléaires, puisque l'Iran s'est arrêté, je dirais, en cours de route, à mi-chemin, et sans doute pas très loin d'avoir la capacité nucléaire militaire. Donc, bien entendu, c'est pas une prolifération généralisée, mais c'est une augmentation significative qui fait que vous ne pouvez plus parler des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et mettre un signe d'égalité avec la possession de l'arme nucléaire. On est dans une situation profondément transformée avec, encore une fois, un hiatus entre des puissances qui modernisent, des puissances qui veulent conserver leurs arsenaux au service d'une stratégie de dissuasion, mais en même temps des pays qui disent « mais notre sécurité et vos engagements, qu'en est-il ?» Alors ça pose une question fondamentale, c'est celle de savoir si on s'engageait dans la voie d'une dénucléarisation, comment les pays qui jusqu'à présent avaient été protégés par les États-Unis en particulier, comment aujourd'hui assureraient-ils leur sécurité? Est-ce que des forces conventionnelles étrangères peuvent assurer de manière fiable cette fonction?
Alors, cela dit, on n'en est pas encore tout à fait là pour l'instant. Je voudrais revenir sur les explications que vous donniez à propos du TNP, donc ce traité de non-prolifération nucléaire, avec les évolutions qui ont été des évolutions géopolitiques. Corentin Brustlin, est-ce que ça ne rend pas finalement caduque ce traité, et est-ce que ça n'oblige pas à essayer d'imaginer un autre lieu pour accueillir une forme de gouvernance mondiale du nucléaire, ce qui semble être quand même la tentative qui est menée à partir d'aujourd'hui à New York, c'est-à-dire de se dire finalement d'abord il faut peut-être pas laisser seulement les puissances nucléaires décider de l'évolution de ces armes, et que c'est une affaire qui concerne la sécurité mondiale, et que c'est donc au plus grand nombre d'y réfléchir.
Alors je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez mentionné, qui est quand on réfléchit à l'alternative à la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une alternative conventionnelle, est-ce qu'elle est crédible, on n'en est pas là, mais il faut se poser la question dès maintenant en fait. Parce qu'à partir du moment où on commence à remettre en cause l'édifice de l'ordre nucléaire international et on commence à remettre en cause les postures de dissuasion et à les affaiblir, il faut se poser la question de quelle est la finalité de tout ça. Comment est-ce qu'on assure la sécurité face aux menaces majeures sans armes nucléaires? Et pour ça, aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse de la part des partisans de cette convention. Et donc, pour revenir à votre question et rebondir sur aussi ce qui a été dit précédemment, quand on voit l'environnement, on voit la mesure dans laquelle il a été dégradé au cours des cinq dernières années, la réponse des partisans de cette convention, c'est de dire la première étape, c'est d'interdire l'arme nucléaire. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la cause de tous les maux et c'est le problème essentiel. Non, je suis pas d'accord. Il y a une architecture qui existe aujourd'hui, qui a fait ses preuves. La démarche d'étape par étape, de négociation d'étape par étape et d'avancer d'étape par étape vers un désarmement et de régulation de la prolifération qui est incarnée par le TNP a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Alors, il y a eu une prolifération réelle. Le nombre d'états nucléaires a grandi, officiel, non officiel. Ça a grandi, c'est vrai. Ça reste contraint, ça reste beaucoup plus restreint que ce qui était anticipé par le passé.
16 000 têtes nucléaires aujourd'hui dans le monde.
16 000 têtes nucléaires, il y en avait 50 000 ouais. il y a quelques temps, et ça décroît. Je ne dis pas du tout que les États ont besoin de 16 000 têtes nucléaires. Comme vous le savez, tous les États n'ont pas des milliers d'armes nucléaires. Je pense qu'il y a des bons arguments à faire en faveur de postures raisonnables de dissuasion minimale, entre guillemets, comme ce qu'est le cas, par exemple, en France. Et donc, moi, ce qui me pose un problème là-dedans, c'est la façon dont on néglige, en mettant en avant cette convention, on néglige les problèmes que ça va poser sur l'architecture existante. Pas forcément sur le TNP, parce que Jean-Marie Collin a dit que ça ne se substitue pas au TNP, ça s'ajoute au TNP, ça la complète. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on assure la sécurité de l'OTAN, de l'Europe, dans de telles circonstances. Et là-dessus, il y a aucune réponse. Alors que, à partir du moment où on commence à rentrer dans ces négociations-là, et c'est le but de ces négociations, c'est il y a une pression qui est exercée sur les gouvernements européens et des démocraties européennes. Et il y a une pression parce qu'il y a des opinions publiques qui sont en défaveur de l'arme nucléaire ou qui ne sont pas forcément très en faveur.
Vous voulez dire que les autres puissances nucléaires qui ne sont pas des démocraties, elles, ne subiraient pas cette pression et
oui,
donc
absolument.
Iraient moins facilement vers la dénucléarisation?
C'est pas qu'elles n'iraient pas, elles n'iront pas. Quand on regarde les postures chinoises ou russes, il n'y a aucune transparence de leur part. Il n'y a aucune transparence sur... Encore, c'est un peu moins vrai dans le cas de la Russie, qui est tenue à une transparence sur ses armes stratégiques dans le cadre des traités New Start. Mais la Chine ne fait preuve d'aucune transparence tout en soutenant à mi-mot l'initiative de sur la convention d'interdiction. Donc, si vous voulez, il y a une ambiguïté qui est, pour le dire timidement, il y a une ambiguïté, une ambivalence qui est assez frappante.
Alors, comment est-ce que vous répondez à cette ambiguïté, Jean-Marie Collin? Je rappelle que vous êtes à New York. Et comment vous répondez aussi à la question que pose Corentin Brustlin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met à la place et comment on assure la sécurité à la place?
Déjà, ce qu'il vaut bien voir, c'est que finalement, la sécurité du monde n'est pas assurée par ces armes nucléaires, puisque ça pose un problème de sécurité globale. Donc, c'est assez quand même comique de dire que ça assure la sécurité du monde. Certains États pensent qu'ils sont en sécurité avec ces armes nucléaires, mais une large majorité du monde, ceux qui sont là aujourd'hui, plus de 120 ou 130 États à peu près, estiment eux justement qu'ils sont en insécurité du fait que 9 États à travers le monde possèdent ces armes nucléaires. Donc ça, c'est quand même le premier point. Après, il faut quand même bien voir que si je fais un parallèle avec les gens qui fument, c'est pas en général ceux qui fument qui s'imposent eux-mêmes des restrictions. Ce sont les autres, ceux qui ne fument pas, qui imposent des restrictions à ceux qui fument. Et là, on est exactement dans ce même processus. C'est une majorité du monde qui veut imposer un règlement, une nouvelle étape, à ceux qui ont de l'armement nucléaire pour leur dire qu'il faut aujourd'hui interdire ces armes nucléaires pour aller vers une plus grande sécurité internationale. On n'est pas dupes, évidemment que cette interdiction va être compliquée à mettre en place de partout, que c'est un projet qui est sur le long terme, avec l'élimination, évidemment. Pour ce qui est des États comme la Chine ou comme la Corée du Nord, effectivement, la société civile a peu de moyens dans ces États-là. Mais là, c'est le job des États, justement, de faire leur boulot, de faire pression sur ces États qui sont démocratiquement moins forts que nous, je dirais moins démocratiques que nous, pour répéter à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran ? Il y a eu des négociations pendant 13 ans et on est parvenu à un accord diplomatique. Il faut que la France et ses comparses réalise la même chose plutôt que ce matin d'intervenir à la porte de ces négociations et se plaindre qu'un groupe d'États veut interdire des armes nucléaires, ce qui est quand même assez comique, sachant que finalement la France et les autres États se plaçaient dans la même position ce matin que la Corée du Nord ou la Russie ou la Chine en se plaignant que des États voulaient interdire ces armes nucléaires.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Et nous parlons ce soir de désarmement nucléaire en compagnie de Corentin Brucelin, responsable du Centre des études de sécurité de l'IFRI, avec Jean-Marie Collin, qui est le vice-président d'Initiative pour le désarmement nucléaire et qui se trouve à New York pour l'ouverture de ces négociations aux Nations Unies avec plus d'une centaine de pays en vue d'un traité interdisant les armes nucléaires, et avec François Géret, qui dirige l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS. François Géret, est-ce que, du point de vue de la légitimité politique, il vous apparaît normal, anormal, problématique que des pays qui ne sont pas des puissances nucléaires s'emparent de ce sujet aujourd'hui, puisqu'on a l'impression aussi qu'il y a, une petit procès, non pas dans le cadre de l'émission de ce soir, mais enfin dans la façon dont les puissances nucléaires parlent de ces négociations, un petit procès en légitimité sur le sujet.
Encore une fois, le traité de non-prolifération a créé de facto une ségrégation entre l'État et les États qui ont droit à avoir l'arme nucléaire et ceux qui y renoncent. Le problème fondamental, c'est que les États qui conservent et qui ont le droit d'avoir des armes nucléaires, donc qui sont légitimes dans ce cas, n'ont pas respecté leurs engagements et continuent à ne pas respecter leurs engagements. C'est-à-dire, quand vous parliez tout à l'heure de milliers d'armes nucléaires stratégiques et de dizaines de milliers d'armes nucléaires tactiques, bon, qui peuvent aujourd'hui à nouveau proliférer géographiquement. Le fait, par exemple, que la Russie installe des armes nucléaires en Crimée, qu'elle installe dans la zone de Kaliningrad, c'est quand même extrêmement préoccupant. Bon, donc, la priorité, c'est de faire en sorte que ce genre de comportement, et c'est négociable diplomatiquement, que ce genre de comportement cesse et qu'on revienne à une espèce de raison qui avait finalement prévalu dans les dernières années de la guerre froide.
Mais est-ce que justement ce genre de comportement peut être combattu à travers la dissuasion nucléaire ?
En tout cas, la dissuasion nucléaire souffre aujourd'hui d'une situation. C'est que nous avons pris, nous particulièrement Européens, l'habitude de la sécurité. L'habitude, pour nous, la guerre. Et je crois que c'est très important en termes de génération. On ne sait plus ce que c'est que la guerre en Europe. On la redécouvre timidement, sans vouloir vraiment la regarder, en Ukraine. Bon. Mais nous avons pris cette habitude et nous avons perdu le sens, je dirais, de l'efficacité de la dissuasion nucléaire, parce que à la fois elle s'est banalisée et en même temps parce qu'on ne voyait plus de danger. On sait très bien que la dissuasion nucléaire n'est pas faite pour contrer le terrorisme, pas davantage, elle n'est faite pour régler des conflits balkaniques ou des choses de ce genre. Donc on perd de vue ce que pourrait être un grand conflit mondial. Et alors là, je dis très fermement, est-ce que se débarrasser des armes nucléaires inconsidérément, est-ce que c'est désirable ? Non. Est-ce qu'on peut revenir à un scénario Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts ? Non. Et il faut expliquer ça aux gens tout en ayant effectivement un comportement responsable en termes quantitatifs et en termes qualitatifs sur les armes nucléaires.
Jean-Marie Collin ?
Le grand problème, c'est que aujourd'hui, on est face, d'une part, comme l'a rappelé, il me semble, Corentin Bousselin, c'est qu'un certain nombre d'États s'interrogent sur comment finalement éroder la dissuasion, c'est-à-dire comment peut-être utiliser les armes nucléaires. Je voudrais quand même souligner que s'il y a des avancées de ce côté-là de la part de la Russie, il y a quelques mois, dans un livre dont je suis sûr les vos partenaires connaissent, La France, le président et la bombe, le chef d'état-major des armées a quand même indiqué qu'il faudrait se poser la question un jour si on ne devrait pas utiliser les armes nucléaires contre un groupe terroriste de type Daesh. Donc ça montre bien qu'en France, finalement, il y a aussi des réflexions qui sont faites pour utiliser les armements nucléaires. Et donc ça montre véritablement qu'il faut absolument aller vers une interdiction globale, qu'il faut travailler dans ce sens-là, sachant encore une fois que la Valette... Ça va être compliqué et que ça nécessite un certain nombre de conférences, un certain nombre de négociations, comme c'est le cas aujourd'hui.
Le livre « Le président et la bombe », c'est le livre de Jean Guénel et de Bruno Tertré, si ma mémoire est bonne. Corentin Bousselin.
Oui, je pense qu'on peut pas prétendre que l'arme nucléaire est avant tout un problème de sécurité et s'arrêter là. Si vous voulez, quand on voit l'histoire des guerres jusqu'à 45, qui sont des histoires des guerres d'une intensité de plus en plus grande, de guerres majeures avec un nombre de morts de plus en plus grand, on peut pas ne pas reconnaître qu'il y a eu un effet pas parfait, pas infini, pas etc. On n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est jamais à l'abri de rien. C'est pour ça qu'il y a toute une série de dispositions qui sont faites pour éviter ça.
Mais parce qu'on serait tenté de vous dire pour l'instant.
Oui, pour l'instant. Mais reste que 70 ans sans guerre majeure, c'est pas rien à l'échelle de l'histoire. Surtout quand on regarde les 45 premières années du 20e siècle. Donc moi, je réfute complètement l'idée que on puisse résumer la contribution de l'arme nucléaire à plus de risques aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de risque nucléaire. Encore une fois, l'environnement est déstabilisé, y compris venant de la part d'États dotés de l'arme nucléaire. La vraie question, c'est quel objectif on veut atteindre et comment est-ce qu'on répond à ça de manière prioritaire.
Un des objectifs affichés dans le toujours fameux donc TNP, traité de non-prolifération nucléaire, c'est bien d'aller vers l'éradication. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a de l'hypocrisie derrière cet objectif?
Attendez, l'environnement international, on le choisit pas. On peut essayer de l'influencer, mais on le choisit pas et il nous est imposé, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il y a des environnements qui permettent d'avancer dans la voie du désarmement, et il y a des environnements qui ne permettent pas d'avancer dans la voie du désarmement. Un environnement qui serait favorable au désarmement nucléaire, c'est un environnement dans lequel il n'y aurait pas de risque de guerre majeure, dans lequel il n'y aurait pas de méfiance réciproque aussi grande qu'aujourd'hui, particulièrement entre grandes puissances. Donc je pense que ce pourquoi ça plaide, c'est pas une convention d'interdiction qui est beaucoup trop ambitieuse et qui, par sa mise en œuvre, peut affaiblir les dispositifs existants, mais c'est des mesures beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus concrètes. C'est en fait revenir à ce qui était le cas pendant la guerre froide, c'est-à-dire des mesures plus concrètes de stabilité, ce qu'on appelait la maîtrise des armements, des trucs beaucoup plus basiques, beaucoup plus concrets que ce qui est mis en avant par les partisans du désarmement, en sachant pertinemment que ça ne peut pas se produire et en niant complètement les effets délétères que ça pourrait avoir sur la stabilité.
Alors Jean-Marie Collin et ensuite François Géré. Jean-Marie Collin.
Oui. En fait, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a jamais de contexte favorable pour interdire quelque chose. Et encore, bien évidemment, pour les armes nucléaires, c'est encore plus le cas. Le contexte n'est jamais favorable. Pendant la guerre froide, le contexte n'était absolument pas favorable. Pourtant, les deux grands blocs, États-Unis et l'URSS, ont mis en œuvre un certain nombre de traités pour éliminer des catégories d'armes nucléaires. Donc, il faut bien le créer à un moment donné, il faut bien que ce soit une décision politique, puisque si on attend le contexte, cela ne se produira jamais. C'est pour ça, aujourd'hui, je reviens encore, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il y a des États qui ont décidé de prendre le leadership. Des mesures pragmatiques. Il ne tient qu'à la France, qu'aux Britanniques, qu'aux Américains de faire pression, de tenter, de réfléchir, d'avancer des propositions pour réduire leurs arsenaux avec la Russie et la Chine. Ça ne tient qu'à eux, en fait. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a aucune mesure qui est réalisée sur le plan multilatéral. Il faut quand même bien comprendre quand même que si ça pose un problème de sécurité globale, puisque c'est ce qui est ressenti par une très large majorité du monde. Il faut sortir uniquement de ce point de vue, de cette vision européenne ou occidentale au sens large, si on inclut parfois le Japon et l'Australie. Donc, C'est pour ça qu'il faut un instrument qui puisse interdire ces armes, comme ça a été le cas pour les armes biologiques et les armes chimiques, et travailler en même temps sur des processus de désarmement. Et c'est par la stigmatisation, par l'interdiction et d'autres systèmes qui se mettront en place avec ce futur traité que les États qui possèdent ces armes vont petit à petit se joindre à ce vaste processus.
Et en faisant peser une forme de responsabilité morale sur ces États, Jean-Marie Collin ?
Bien sûr qu'il y aura une responsabilité morale. La France et les autres États ne pourront pas s'afficher de la même manière ou faire des grands discours comme le président Hollande a fait un discours à Istres en vantant les mérites et la sécurité qu'apportaient les armes nucléaires à partir du moment où c'est une arme qui deviendra illégale aux yeux d'une majorité du monde et en devenant une norme internationale. Donc forcément, vous n'avez pas la même attitude. Les constructeurs aussi ou les banques qui prêtent un certain nombre d'argent aussi pour les industriels qui fabriquent ou qui aident à fabriquer des systèmes qui vont avec les arsenaux nucléaires, changeront aussi leur attitude. C'est un ensemble, c'est une volonté globale et ça va bien pour aller vers un monde sans armes nucléaires, qui prendra un peu de temps, mais c'est bien pour aller vers une plus grande sécurité internationale.
Si ça a marché pour d'autres types d'armes comme les armes biologiques ou les armes chimiques, François Géré, ça peut marcher pour les armes nucléaires ?
Alors d'abord, les armes nucléaires, il faut le répéter, sont d'une nature complètement différente. Leur capacité de dévastation n'a aucune commune mesure avec les armes chimiques, ni même avec les armes biologiques qui sont très difficiles de maniement et qui, en fait, fondamentalement, n'intéressent pas grand monde. Les armes nucléaires sont des armes excessives. C'est sur la base de cet excès que la stratégie de dissuasion nucléaire a pu se mettre en place et qu'elle a permis et qu'elle a forcé les grandes puissances à renoncer à la guerre générale. Bon. Je voudrais simplement dire que on ne regarde pas d'assez près l'évolution des armements conventionnels ultramodernes. Il y a aujourd'hui des capacités, en particulier en termes de missiles, extrêmement précis, avec des explosifs de très très grande puissance qui peuvent réaliser en l'espace de quelques minutes des dévastations gigantesques. Donc, cesser d'avoir un effet dissuasif par le nucléaire, c'est ouvrir la porte à l'utilisation des armes qui seraient conventionnelles, mais qui seraient pratiquement aussi dévastatrices qu'une arme nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, il y a un travail énorme à faire et on ne peut pas dire, avec des arsenaux conventionnels, nous sommes en sécurité. Dernier point, un traité d'interdiction des armes nucléaires qui ne serait pas totalement vérifiable, ce qui est pratiquement impossible, serait dangereux.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, François Géré, Corentin Brousselin, et peut-être aussi d'ailleurs Jean-Marie Collin, au-delà d'un programme de désarmement nucléaire, il faudrait un véritable programme de désarmement mondial. Il y a une conférence de l'ONU, me semble-t-il, sur le désarmement. Est-ce que les choses de ce point de vue-là n'avancent pas aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut aller, en tout cas, avec et les armes nucléaires et les armes conventionnelles, mais d'un même pas ? Pour que ça fonctionne ?
Alors, je pense que quand on parlera de désarmement et de maîtrise des armements, parce que je pense encore une fois que le terme est beaucoup plus approprié à ce qu'on peut atteindre aujourd'hui, quand on parlera de ça, il faudra effectivement penser aux liens entre conventionnel et nucléaire, parce que les capacités conventionnelles sont de plus en plus grandes et que c'est ce qui préoccupe la plupart des États. L'une des choses que les partisans de cette convention passent sous silence, c'est que il y a toute une série d'États qui se dotent et qui veulent avoir l'arme nucléaire, pas pour répondre au fait que l'Occident possède l'arme nucléaire, c'est pour répondre au fait qu'ils se sentent en insécurité en raison des déséquilibres conventionnels, pas du tout des déséquilibres nucléaires, c'est des déséquilibres conventionnels. Et ça, personne ne va faire réaliser un traité qui contraindra les États-Unis à abandonner et à réduire leur budget de défense. C'est impensable. C'est totalement déraisonnable de pouvoir l'envisager. Donc on est dans des ambitions qui sont absurdes à mon sens. C'est comme utiliser la métaphore de des gens qui fument. Pour moi, c'est et de l'interdiction qui a été faite sur les cigarettes. Pour moi, c'est quelque chose. C'est se méprendre profondément sur ce qu'est l'ordre international par rapport à l'ordre interne. oui, l'État peut imposer aux gens qui fument d'arrêter de fumer pour des raisons de sécurité publique, parce qu'il y a un État qui a le monopole de la force et que c'est ce qui fait qu'on est dans un ordre interne. L'ordre international, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de monopole de la violence légitime, il y a une série d'États souverains et personne ne peut mettre ça en force, personne ne peut imposer une telle disposition. Donc c'est se méprendre profondément sur ce qu'on peut atteindre à travers ce type de mesures. Et quand on parle de stigmatiser les puissances nucléaires, encore une fois, je pense que ça reflète beaucoup bien l'ambition qui n'est pas une ambition de renforcer en tant que telle la sécurité internationale et la sécurité nationale, parce que quand on le fait, on passe totalement, quand on le fait en poussant, en mettant en avant cette convention, on passe totalement sous silence la façon dont une pression pourrait être exercée sur ces puissances nucléaires, telles que la Russie et la Chine.
En même temps, Corentin Brousselin stigmatise les puissances nucléaires, mais elle se stigmatise elle-même en ne participant pas justement aux discussions. C'est-à-dire c'est totalement, d'un point de vue extérieur, totalement incompréhensible.
Il y a deux dimensions. Il y a la dimension tactique, c'est-à-dire est-ce que c'est intelligent sur le plan des négociations d'y aller ou de ne pas y aller. Et là, honnêtement, je ne suis pas diplomate, donc c'est quelque chose sur lequel je resterai muet. Il y a la dimension politique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut cautionner un dispositif, un cadre qui, en fait, pourrait affaiblir, encore une fois, la sécurité régionale dans certaines parties du monde, y compris en Europe. Et je pense que là, la décision de ne pas y aller est totalement défendable.
Jean-Marie Collin.
Non, je pense qu'au contraire, c'est pas défendable. Ça fait bien partie du rôle de la France et des autres d'aller discuter. Après tout, on revendique tout le temps d'être membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on a des droits, qu'on a des obligations un peu plus importantes que les autres. Et aujourd'hui, c'est la politique de la chaise vide, comme ces 5 dernières années, sur différentes conférences. Et comme vous l'avez dit vous-même, ils se stigmatisent tout seuls en ne venant pas. Il y a quelques mois, ils ne reconnaissaient pas et ils riaient quasiment de la mise en œuvre de cette initiative. Et finalement, aujourd'hui, c'est eux qui sont derrière la porte et qui ne discutent pas avec ces États. Donc ça montre bien que ce traité, cette mise en œuvre est sur la bonne voie, marque des points, avance et va permettre de créer justement une sécurité globale plus importante. Là-dessus, on n'arrivera pas à se mettre d'accord avec Corentin, mais ce n'est pas très grave, puisque une fois encore, et c'est ce qui a été dit ce matin par le discours du pape, par le discours du secrétaire général de l'ONU, par un diplomate autrichien, les armes nucléaires, en cas d'accident ou d'utilisation, par une détonation volontaire ou non volontaire, ne connaîtront pas de limite en termes de destruction. Donc c'est bien un problème de sécurité globale, donc il faut le résoudre par différents moyens, sachant que aujourd'hui, il faut mettre la pression sur ceux qui la possèdent, puisqu'ils ne veulent pas avancer pour diminuer cette insécurité internationale.
Surtout les démocraties.
Voulez-vous que la France...
Et ça, c'est à la France de faire son job, et aux États-Unis et aux Britanniques.
Alors, à propos de la France, justement, voulez-vous que la France négocie et ratifie avec l'ensemble des États concernés un traité d'interdiction et d'élimination complète des armes nucléaires sous un contrôle mutuel et international strict et efficace? C'est une question qui a fait l'objet d'une proposition de loi française déposée pour organiser un référendum, puisque la révision constitutionnelle de 2008 le permet désormais. Il y a 120 parlementaires qui l'ont signé. Il faudrait un cinquième des parlementaires, soit 185 d'ici la fin de la session mi-juin, pour que ce référendum puisse être organisé. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative, pour conclure, François Géré?
Ce genre d'initiative n'est pas inintéressante. Tout dépend de la manière dont on pose la question et ce qu'on met derrière les termes de la question. Parce que tout le monde sera pour la sécurité. Tout le monde sera contre la guerre. Tout le monde sera contre... souvenez-vous, pendant l'entre-deux-guerres mondiales, on avait fait une déclaration à la Société des Nations. On avait signé le pacte Briand-Kellogg entre le diplomate français et le diplomate américain pour mettre la guerre hors la loi. Voilà. Et on sait, quelques années plus tard, ce que ça a donné, c'est-à-dire la plus grande déflagration à travers l'ensemble de la planète. Et c'est cela qu'il faut en priorité éviter, c'est-à-dire se leurrer avec des bonnes paroles et, croyant créer une sécurité internationale, se mettre dans une situation d'où pourrait résulter une guerre majeure que nous avons oubliée.
Allez, on verra bien ce que produisent en tout cas ces négociations qui commencent à l'ONU pour la semaine. Il y aura ensuite une deuxième session qui est prévue, me semble-t-il, au mois de juin. Ce sera en tout cas sans doute une bonne occasion pour réfléchir à ce à la place qu'occupent les armes nucléaires aujourd'hui dans le monde. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. François Géré, Jean-Marie Collin et Corentin Brousselin. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Mathilde Barbier, Isolte Sicard. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Fabien Laléouze. Demain, le FN est-il un parti ouvrier? Ce sera à partir de 18h20. Dans un instant, vous retrouverez Mathilde Serrel et Martin Kenéen que je salue pour Ping Pong. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Hervé Gardette.
Re-salut à vous Hervé Gardette. Ce soir, si vous n'avez jamais vu un film de Charles Burnett, vous allez avoir très envie de les découvrir. On va parler de ses nombreux films dans le cadre d'une rétrospective au Centre Pompidou et dans le cadre du cinéma du réel. C'est Haley Rebellion.
Et à ses côtés, bien, nous recevons Thierry Raspail, co-commissaire de la grande exposition Los Angeles, une fiction. Ça va vous donner envie de foncer à Lyon, au Musée d'Art Contemporain ou au MAC, où cette exposition est présentée jusqu'au 9 juillet.
Et bien, j'y foncerai juste après le rappel des titres.